René Frény publie un tract carné de prison.
C'est avec grand plaisir que je reçois René Frény. C'est un ami de longue date et un ami de la radio. Aussi, excusez-nous si nous allons nous tutoyer. Bonjour, cher René.
Bonjour, François.
Avec plaisir, je te reçois parce que cette collection carné de prison chez Tract, les tracts de Gallimard, pardon, c'est une collection très particulière. Ce sont des petits essais. C'est des opuscules de 3,90 € que l'on trouve depuis un an à peu près dans les librairies. C'est une très belle collection. On fait appel chez Gallimard donc à des écrivains, des sociologues, des psychologues, des médecins pour écrire sur des faits de société. Et on a donc des personnes morales importantes et des artistes qui écrivent. Je pense notamment à Daniel Salnave de l'Académie française qui a écrit un magnifique Jojo le gilet jaune d'après une citation du président de la République. Et donc c'est très bien vu, c'est très bien fait. Je pense aussi à Elie Béji qui est une sociologue tunisienne qui a écrit Dommage Tunisie à propos de la révolution tunisienne et de ses conséquences. Et puis cette fois-ci, bien c'est notre ami René Frény qui publie Carnet de prison avec un sous-titre qui a son importance, ou l'oubli des rivières. René, qu'est-ce que ça fait que d'écrire dans la collection Tract, qui est une collection qui doit beaucoup à un certain, notamment Jean Giono?
Oui, ça a été un très grand auteur, peut-être le plus grand avec Albert Camus des éditions Gallimard, Jean Giono, et il avait écrit Refus d'obéissance, qui est un pamphlet contre la guerre, contre toutes les guerres dans les années 30. Il avait beaucoup subi et eu peur pendant la guerre de 14 et il ne voulait pas repartir. Et donc il a écrit Refus d'obéissance, où il demande aux paysans à l'époque de ne pas partir à la guerre, de rester chez eux, même d'arrêter les cultures, de ne pas nourrir la guerre. Et donc il écrit ce texte et Gallimard en a fait un tract, le premier tract, Refus d'obéissance, et a créé cette collection. À l'époque c'était Gaston Gallimard, maintenant c'est Antoine Gallimard, et Antoine Gallimard a trouvé cette collection si belle qu'il l'a recréée il y a un an, avec un texte de Régis Debray, je crois, pour ouvrir. Moi, ça a été l'avant-dernier, Carnet de prison, dont c'est 40-50 pages, comme tu l'as dit, sur un thème de société. Antoine Gallimard m'a appelé et m'a dit « Poussez un cri, n'importe quel cri, mais il faut que ce soit littéraire, vous n'êtes pas philosophe, vous n'êtes pas sociologue, un cri littéraire ou poétique. »
C'est une commande, j'ai écrit, donc, une commande, mais très particulière.
Très particulière.
C'est
moi,
pas de la fiction.
Moi, je fais des romans depuis des années, chez De Noël et chez Gallimard, donc Gallimard était mon éditeur naturel, et là j'ai écrit ce que je n'avais jamais écrit, un espèce de pamphlet contre l'injustice, contre les ghettos.
J'ai passé ma vie à lutter contre l'injustice. Je me suis fait beaucoup d'ennemis. Ça a servi à quoi? C'est un extrait, par exemple, de tracts. On voit bien là de quelle manière tu t'es emparé de cette idée des tracts et d'écrire sur quelque chose que tu connais bien, l'univers de la prison, pour y avoir d'abord goûté toi-même. Puis ta famille aussi, ton père, tu le rappelles dans ce livre. Et en même temps, pour avoir animé des ateliers d'écriture, nous allons en reparler. Et la première confrontation de René Frény avec la prison, avec l'enfermement, et à la littérature d'ailleurs aussi, c'est un certain Edmond Dantès.
Oui, ma mère me lisait le Comte de Monte Cristo. De notre fenêtre à Marseille, on voyait le château d'Yves qui était pourpre le soir lorsque le soleil entrer dans la mer, et elle me lisait, tout en regardant le château d'If, l'histoire du Comte de Monte Cristo. Et j'ai appris à cette époque-là, quand j'avais 7-8 ans, quand elle me lisait ce texte, que mon père avait fait un an de prison parce qu'il avait dérobé quelques kilos de marchandises dans un train qui partait vers l'Allemagne, nos ennemis de l'époque, quelques kilos de marchandises. Il a été arrêté par la police française pour marché noir et il a fait un an de prison dans une prison qui n'existe plus, mais qui était la prison de Marseille, boulevard Chaves, la prison Chaves, qui a été remplacée après la guerre par les Baumettes. Et quand j'ai appris que mon père avait fait de la prison pour avoir dérobé quelques kilos de marchandises aux Allemands, hein, qu'on appelait les Boches quand même, et que ma mère me lisait cette injustice énorme, le Comte de Monte Cristo, Edmond, j'ai pris la justice en horreur, j'ai pensé qu'il y avait vraiment deux justices, un peu comme La Fontaine, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc et noir. Et je n'ai plus cru à la justice, je suis devenu un enfant révolté, et je crois que je me suis débrouillé, à 19 ans, d'être déserteur pour connaître la prison. Et j'ai connu pendant 6 mois la prison militaire, Et c'est grâce finalement à ces 6 mois de prison que j'ai découvert la lecture et la littérature.
Alors une manière quand même de positiver l'enfermement, exactement, l'isolation, et de se dire on peut s'évader par les livres. Tu vas d'ailleurs assister pendant des années, des décennies peut-être même, des prisonniers parfois même des personnes qui sont des monstres, hein, au regard de la société, dans des ateliers d'écriture, au Baumettes notamment, à Marseille, et tu vas accompagner comme ça toute une faune particulière qui est, ce sont des fauves qui sont enfermées, et tu vas par exemple provoquer des éléments avec le monde extérieur. On te dit par exemple, on aime bien te voir parce que tu sens la voiture, la femme,
Et la forêt.
Bref, tu sens la liberté quand tu vas en prison. Donc c'est vrai que ces personnes ont une sensibilité. Toi, tu es là pour ressentir leur sensibilité et pour animer un atelier d'écriture. Un atelier d'écriture qui va les faire s'évader, même si c'est fictif. Et il y a un mot, par exemple, que tu utilises pour justement provoquer un atelier d'écriture. Tu écris figuier. Et à partir de ce mot, on va découvrir la nature. Autrement dit, ils vont sortir. Et c'est le sous-titre, hein, de ton livre, l'oubli des rivières. Surtout ne pas oublier les rivières.
Oui, mais je pense quand même que le combat écologique aujourd'hui, sauver toutes les espèces animales, sauver l'humanité, passe par l'écologie. Mais que dans les prisons, cette notion d'écologie, tu l'as dit, je sens la femme, la voiture et la forêt, c'est un détenu qui m'a dit ça, parce que je leur apporte des odeurs, des couleurs, des souvenirs. On parle de nos mamans, on parle des rivières, on parle des voyages, on parle de l'érotisme. Et c'est comme ça qu'ils ne deviennent pas plus barbares ou plus monstrueux. Tu as dit, ils frôlent la barbarie et la monstruosité. Ils ont parfois tué, même souvent tué. Et la prison est l'université du crime. Tu rentres voleur en prison, tu sors criminel. Et si tu rentres criminel en prison, tu sors un véritable monstre, parce que c'est l'université du crime. Ils ne parlent entre eux que de vol, de coffre-fort, de braquage, de drogue, de cocaïne, de règlement de compte. Et moi, je leur apporte quelques odeurs, quelques couleurs, des mots. Et le seul lien social, c'est le langage, c'est les mots. Quand tu dis le mot figuier, tu as l'odeur du figuier. Le mot rosé le matin, le mot tomate, le mot bateau, tu as l'odeur du port, du vieux port, l'odeur du goudron, l'odeur de la mer. Et toutes ces odeurs, ils ne les ont plus. En prison, il y a une ou deux odeurs. Et puis il y a le mur. Donc ils n'ont que la vision du mur et une ou deux odeurs. L'odeur de la cuisine trop cuite et l'odeur du désinfectant. Et avec des mots, ils font ce que j'ai fait moi pendant 6 mois dans la prison où j'étais. J'ai lu Giono, j'ai lu Céline, j'ai lu Camus et j'ai voyagé. J'ai voyagé et dès que j'ouvrais un livre, je sortais de ma cellule, je partais voyager, je passais à travers les barreaux. Donc le rôle de la lecture, c'est ce rôle de lien social qu'ils n'ont plus parce qu'ils ont 200 mots. Et ils ne parlent que de crimes. Et là, grâce aux ateliers d'écriture, ils sortent de prison, ils voyagent. Et quand ils sont libérés, ils ont un autre monde en tête. Ils n'ont pas simplement un barreau et un mirador et un calibre. Moi, je leur dis pendant des années, posez vos calibres, prenez un stylo. Et avec ce stylo qu'ils prennent, à la place de leur calibre, ils voyagent. Et ils trouvent parfois du travail en sortant de prison, alors que s'ils n'avaient pas lu, s'ils n'avaient pas écrit, s'ils n'avaient pas pensé, ils seraient allés voir le parrain de la ville pour trouver du travail. Quel travail ? Chauffeur, videur, dans une boîte de nuit, braqueur, trafiquant. Donc voilà, l'atelier d'écriture, c'est un moyen de retrouver un lien social, le seul lien social, c'est le langage, c'est la culture.
Dans ce livre, René, tu dévoiles beaucoup de choses. On a l'habitude, en lisant René Frény, dans tes romans, souvent on a un personnage qui te ressemble terriblement. Mais là, on voit des choses en filigrane qui sont importantes, que ce soit par rapport à la prison, à l'enfermement ou au rapport entre les êtres humains avec la nature, ou des choses comme ça. Ça a été un effort particulier pour toi ou c'est un choix que tu as fait de parler de ton expérience d'atelier d'écriture en milieu carcéral, mais de cette manière-là?
Non, parce que la prison, je l'ai habitée pendant 6 mois, elle m'habite depuis des années. Quand tu sais que ton père est allé dans une prison, tu te demandes ce qu'il y a vécu, parce que c'est le seul lieu où on n'entre jamais à la prison. On peut visiter un hôpital psychiatrique, on peut visiter une maison de retraite, on peut visiter... Mais la prison, on n'y entre jamais. Qu'est-ce qui se passe? Et le rôle de la prison, finalement, et préventif. Les gens qui passent sous ces hauts murs des Baumettes, ils se disent « Ouh là là, il faut surtout pas que je fasse d'erreur, parce que si je me retrouve là derrière, c'est préventif une prise, plus que punitif. » Le citoyen moyen, il va travailler le matin, il paie ses impôts, il a peur de violer la loi, parce qu'il se dit « Je vais me retrouver là-bas. » Donc, moi, j'ai habité cette prison très jeune en écoutant ma mère parler d'Edmond Dantès, et en me demandant ce qu'avait vécu mon père. Donc, j'y suis allé, et je me suis dit, c'est vraiment là qu'il faut aller travailler, parce que ces jeunes qui sont dans les quartiers nord, par exemple, ou dans le 93, qui coupent la drogue dès qu'ils ont 10 ans dans les caves et qui se retrouvent à la santé à Fresnes ou au Baumettes, ils n'ont jamais connu autre chose. Ils n'ont jamais vu un livre, ils n'ont jamais vu un piano, ils n'ont jamais vu... Quand on prend la vie de Mozart, on sait que le père de Mozart était un grand compositeur, violoniste, célèbre et magnifique. Donc, il devient Mozart parce qu'il est le fils d'un grand compositeur. Mais quand on est le fils d'un trafiquant de drogue, on a peu de chances de devenir Mozart. Eh bien, c'est ce qu'il faut corriger. Allez voir en prison les gens qui sont là, qui sont toujours les mêmes. Hein. 90% de cette population pénale est issue de ces quartiers. Eh bien, il faut leur donner une seconde chance. Et la seconde chance, c'est la culture, c'est les mots. C'est ce qu'on fait là, toi et moi. C'est on parle, et on parle de quoi ? On parle de la culture. Il n'y a que ça pour repousser la violence et la barbarie. Moi, je me suis rendu compte que quand on est illettré, quand on est ignorant, on a peur parce qu'on ne comprend pas les choses. Quand on a peur, on devient haineux. Et la haine crée de la violence. L'illettrisme, l'ignorance crée de la peur crée de la haine, et la haine crée de la violence. Eh bien, mes ateliers d'écriture, c'est une manière, un peu comme le colibri. Je n'ai que 12 élèves, 12 détenus, mais c'est une manière de repousser un peu la violence en prison, de repousser l'ignorance, de repousser la haine.
On se retrouve dans des milieux enfermés, emprisonnés avec des personnes qui ont des vécus très différents. Mais en même temps, toi, de ton côté, quand tu viens de l'extérieur, tu fais un constat. Tu fais un constat sur ce qui les a amenés ici. Et tu le dis et tu cites certaines marques qui font que les jeunes, par exemple, sont plus intéressés par leur Nike et leur Adidas que par Camus, par exemple. Et que donc, ça fait un problème. Mais en même temps... Et c'est ça aussi le problème, c'est qu'ils gagnent, ça rejoint ce que tu disais à l'instant, ils gagnent 20 fois plus que leur grand-père en trafiquant la drogue, en la coupant avec n'importe quoi, en faisant n'importe quoi, et ils manquent de repères terribles. Est-ce qu'on arrive à récupérer des personnes, René, dans ces cas-là, des personnes qui sont éduquées, qui sont immergées, imprégnées de cette ambiance particulière que sont notamment les quartiers nord, par exemple, à Marseille, mais ce ne sont pas les seuls.
C'est la grande question, bien sûr. Comment casser les quartiers nord? Parce qu'il faut casser les quartiers nord. Comment trouver du travail dans ces quartiers? Comment les ramener vers l'école et le travail? Moi, je ne crois qu'à la culture et au travail, à l'école et au travail. S'il n'y a pas de boulot, même si tu leur fais faire une scolarité moyenne, si ensuite, à 17 ans, ils n'ont pas de boulot, ça servira à rien. Ils iront couper du shit dans les caves, avec du henné, ils coupent du shit avec du henné, maintenant ils coupent avec du glyphosate, avec de l'huile de vidange. Et ils gagneront leur vie comme ils peuvent. Il faut une éducation, mais il faut ensuite du boulot. Et dans les quartiers nord, toutes les huileries, les raffineries de sucre, tout a fermé. La réparation navale, le port est à moitié mort. Donc, comment restaurer ces quartiers nord? Comment restaurer le travail? Parce que on peut restaurer l'école, on peut mettre une piscine. Il n'y a plus de piscine. Il y a de moins en moins de stades. Les écoles sont de plus en plus malades. Mais il y a ensuite 60% de chômage. Et ça... Comment le corriger, c'est la grande question. Mais sinon, je crois qu'on a compris ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas parce que ça demande pas mal de sommes d'argent. Et puis, il faudrait détruire les grandes barres des immeubles. Il y a quatre cités sur cinq qui devraient être détruites. La cité Caliste à Marseille, en grec, ça veut dire la plus belle. La cité Caliste était conçue comme étant la plus belle. Et puis, il y avait des Marseillais d'origine italienne, espagnole, etc., qui vivaient là-bas. Ils sont tous partis, dans les quartiers sud. Donc, il ne reste plus que les Gitans et les Maghrébins, et c'est devenu l'enfer, ces cités. Elles sont taguées, elles sont pleines de drogue, elles sont pleines de chômeurs.
Des zones de non-droit, en
comment,
plus.
Comment casser ces cités aujourd'hui? C'est ça le problème. On a compris ce qu'on devrait faire, mais on ne le fait pas.
René, dans ton tract sur le carnet de prison, il y a aussi un message qui est relativement récent, peut-être, dans ton œuvre. C'est un message écologique.
Oui. Oui, ben je pense que c'est la priorité des priorités. La planète est en train de crever de ce que nous avons fait. Nous sommes des sapiens. On a tué en 40 ans 60% des espèces vivantes. En 40 ans, 60% des espèces dévertébrées. Donc, comment faire pour ne plus massacrer ce que les Américains ont fait quand ils étaient là-bas avec les Sioux, les Cheyennes et les bisons? Ils ont fait un massacre. Ces Blancs qui sont arrivés en Amérique et qui ont tué tout ce qui vivait. Eh bien, c'est ce que les sapiens ont fait partout. C'est ce que nous faisons dans nos élevages de vaches, de poulets, c'est ce que nous faisons partout, dans nos élevages de cochons. Moi, j'ai récupéré une petite terre à Vinon. Elle était tenue par un paysan qui mettait du glyphosate. Moi, j'y fais mon jardin. Il y a 5 ans, il n'y avait pas un seul ver de terre. Aujourd'hui, en 5 ans, les vers de terre sont revenus. J'y fais des tomates, des fraises. J'adore être un petit maraîcher bio. Mais c'est ce qu'il faudrait faire partout. Il n'y a plus de vers de terre. Là où il y a les grands paysans qui ont 200, 300, 1000 hectares, il n'y a plus. La terre n'est plus de la terre. C'est rien du tout. Ce n'est qu'un support pour mettre de l'engrais. Je crois que la priorité des priorités sur cette planète, c'est d'arrêter de polluer avec du glyphosate, avec nos fumées, avec nos voitures, que l'air redevienne respirable et que la terre redevienne de la terre. Elle n'est plus de la terre. Donc c'est la priorité. Ensuite, il y a ce que nous disons, les ghettos. Comment casser ces ghettos? Comment éviter à ces enfants dans ces quartiers de finir en prison 9 fois sur 10? Donc, restaurer la scolarité et restaurer le travail. Donc, c'est mon carnet, ces carnets, c'est ça, c'est le combat écologique qui est la priorité, parce qu'on va suffoquer d'ici 30 ans, et comment casser ces ghettos, parce que sinon, les brasiers vont s'allumer partout, vont s'allumer dans toutes les villes, pas qu'à Marseille, à Lyon, à Paris, dans toutes les capitales du monde, en Afrique. Ces ghettos vont devenir irrespirables, parce qu'ils seront trop pollués. Il y aura une telle misère sociale, un tel illettrisme que ça va exploser.
Je vais lire la dernière phrase de ce tract, qui est une phrase magnifique qui recoupe un petit peu tout cela. C'est simplement l'auteur qui dit « Qu'avons-nous fait pour avoir oublié que le bonheur est au bord des rivières ?» Et ça, c'est important aussi parce que c'est vrai que c'est l'oubli des rivières qui guette les prisonniers et qui fait qu'ils sont encore plus dans une ambiance pesante que s'ils n'y pensaient de temps en temps. René, ça fait 2 mois à peu près que ces tracts, ces carnets de prison et où l'oubli des rivières est sorti. Il y a des réactions au niveau de tes lecteurs?
Oui, parce que c'est différent. C'est mon style. Moi, je suis incapable de faire un livre uniquement philosophique ou sociologique. Je ne suis pas, je dis pas que je suis pas un intellectuel, mais en tout cas, je ne suis pas un universitaire. Et il y a eu des réactions beaucoup plus nombreuses que pour mes romans. Le roman, ça s'adresse à des gens qui aiment la littérature, la poésie, le voyage. Là, il y a derrière en filigrane une pensée un peu philosophique. J'ai eu plus de retours pour ce petit livre, et puis surtout beaucoup plus d'articles dans la presse nationale. J'ai été invité par France Inter, par France Culture, par le 28 Minutes. Donc, il y a beaucoup...
Par Fréquence Mistral.
Fréquence Mistral. Il y a beaucoup plus de réactions nationales. Parce que... Mais c'est un peu aussi les médias d'aujourd'hui. Les médias ont besoin d'un aliment, d'une pensée. Pour parler à un micro, il faut que tu aies une pensée. Le roman, les gens ne savent plus comment l'attraper. Les grandes émissions littéraires, il n'y en a plus qu'une, la grande librairie, parce que les gens ne savent plus comment... parler de littérature, alors que là, nous avons parlé, François, des ghettos, nous avons parlé de l'illettrisme, nous avons parlé de l'écologie, ce sont des sujets politiques et d'actualité. Alors que c'est très dur d'attraper la littérature, hein. C'est très dur de parler d'un livre littéraire. C'est beaucoup plus facile de parler d'un tract, parce qu'il y a un propos, il y a un propos humain, un propos politique.
Et un tract, le jeune René Frény en a distribué notamment, tu le rappelles, dans ce livre, avec des frémissements aussi particuliers par rapport aux jeunes femmes qui distribuaient avec toi des tracts. Il y a des choses magnifiques à lire dans ce livre, qui est un livre d'espoir aussi, hein, Carnet de prison ou l'oubli des rivières, mais en même temps on plonge dans des univers particuliers. Merci encore René d'avoir été mon invité. J'ai choisi une phrase magnifique de ton livre, qui te ressemble bien et qui ressemblerait et qui serait une belle leçon aussi pour beaucoup de gens et sur cette terre. C'est une phrase extraite de ton livre qui dit tout. Quand on a une mère et 3 livres, on ne devient pas monstrueux.
Oui, mais tous ces détenus, François, tu l'as dit, tous ces détenus que je rencontre, ils n'ont pas eu de livre chez eux, pas d'instrument de musique, ils ne savent pas ce que c'est qu'un opéra, qu'une galerie de peinture, et souvent, il n'y a plus de père à la maison et une mère débordée, parce qu'il y a quatre, dont il n'y a même pas de mère capable de lire, elle est complètement débordée. Et moi, j'ai eu cette chance dans une famille très populaire. Mon père était peintre en bâtiment, dans un quartier où il n'y avait que des chômeurs et des ouvriers. Mon père était peintre en bâtiment, mais j'avais une maman. Une maman qui comprenait que je n'allais pas à l'école, que je traînais dans les rues, que je devenais un petit délinquant. Donc un soir, elle a ouvert un livre, d'abord Les Misérables de Victor Hugo, puis ensuite le livre dont je parlais, le livre d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo, et elle m'a lu tous les soirs un passage d'un livre. Et je me suis rendu compte à quel point c'était beau, la littérature, et je suis devenu écrivain grâce à la voix d'une maman. C'est ma mère qui a fait basculer ma vie. Aujourd'hui, si je suis là avec toi, si j'écris des livres, si on m'invite dans des radios, c'est grâce à la voix de cette maman uniquement. Parce que je n'allais pas à l'école, j'ai raté toute ma scolarité, je me suis fait virer de tous les lycées de Marseille les uns après les autres, je n'ai même pas le BEPC et je suis chez Gallimard. Donc c'est la voix de ma mère qui m'a amené chez Gallimard.
Belle conclusion. Merci beaucoup René. Merci, je rappelle François. Donc, c'est dans la collection Tract de Gallimard, 3,90€, c'est donné. C'est le numéro 11 de cette collection, René Frény, Carnet de prison ou l'oubli des rivières. À bientôt René.
Merci François.